Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 23 décembre 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Voici les titres. Au Mali, le parquet a requis un an de prison ferme contre l'opposant Kayo Jim, arrêté le 13 novembre dernier. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel a confirmé aujourd'hui la victoire électorale du Frelimo, parti historique au pouvoir. La situation au Soudan du Sud, à la frontière où affluent les réfugiés soudanais, est totalement accablante, a alerté lundi Médecins sans frontières. Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a commué ce lundi la peine de 37 condamnés à mort, moins d'un mois avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et dans notre partie magazine en Côte d'Ivoire, la chef Zeynab Bansé a battu le record du monde du plus long marathon culinaire individuel. Après avoir complété ce lundi matin 131 heures et 30 minutes de cuisine en continu.
L'adrénaline, c'est ce c'était où c'est un peu compliqué pour la femme d'avoir une place, vraiment compliqué. Et notre métier n'est pas facile. Et le métier de chef, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se posent dans ce métier, c'est plus d'hommes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, le parquet a requis un an de prison ferme contre l'opposant Kayo Jim, arrêté le 13 novembre dernier pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure via des systèmes d'information. Sur les antennes de Joliba TV, il avait émis le doute sur la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Notre correspondant Mohamed Danioko nous fait le point.
Un an. C'est ce que le parquet requiert contre Issa Kayo Jim, figure politico-médiatique malien, pour ses propos jugés offensants envers les autorités burkinabées. Issa Kayo Jim était devant les juges aujourd'hui pour répondre des chefs d'accusation d'offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger et d'injures via des systèmes d'information. À la mi-novembre, les autorités burkinabées informaient l'opinion qu'un coup d'État avait été déjoué grâce à l'intégrité de ses forces de défense et de sécurité. Plusieurs valises contenant des liasses de billets estimées à 5 milliards de francs CFA avaient été montrées à la télévision comme l'argent qui devait servir à financer le coup. Sur les antennes de Joliba TV, Issa Kayo Jim avait mis en doute la véracité de cette information. Le 13 novembre, il était interpellé et placé sous mandat de dépôt. À la barre ce lundi, pour son jugement, il a plaidé non coupable car estimant avoir été mal compris, mais a toutefois présenté ses excuses si, selon lui, ses déclarations ont causé du tort. Issa Kayo Jim reste en prison en attendant le verdict de son procès qui est prévu pour le 12 février 2025. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont rejeté dimanche le délai de rétractation de 6 mois accordé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant leur retrait définitif, y voyant une tentative de déstabilisation extérieure dans un communiqué. Les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, tous gouvernés par des militaires hostiles à la France, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la CEDEAO. Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, l'organisation régionale a annoncé un délai de rétractation de 6 mois pour que les trois pays puissent revenir sur leur décision après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé aujourd'hui la victoire électorale du Frelimo, parti historique au pouvoir. La décision de la Haute Cour intervient après 2 mois de contestation qui ont plongé le Mozambique dans une crise politique sans précédent, faisant d'une centaine de morts. Le point avec Jean-Roger Billon.
La Cour a déclaré Daniel Francisco Chapo vainqueur de la présidentielle avec 65,17% des voix, soit 5 points de moins que le score établi par la commission électorale il y a 2 mois. Sur la base de ces résultats définitifs, le Frelimo conserve largement la majorité avec 171 députés sur 250 au Parlement, même s'il a 24 sièges de moins à l'Assemblée par rapport au premier résultat. Le principal opposant, Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale lors des élections du 9 octobre, avait lancé un ultimatum aux autorités cette semaine. La décision du Conseil constitutionnel conduira le Mozambique soit à la paix, soit au chaos. La contestation, qui ne s'est pas essoufflée en 2 mois, a coûté la vie à au moins 130 personnes, d'après l'ONG locale Plataforma Decide, pour la plupart des manifestants tués à balles réelles. Suivant l'appel de l'opposant à paralyser le pays, la capitale Maputo avait des airs de ville fantôme ce lundi, avant l'annonce du Conseil constitutionnel.
Le cyclone Chido a causé au moins 120 morts au Mozambique, selon un nouveau bilan en hausse de 26 décès diffusé lundi par l'Institut de gestion des risques et désastres de ce pays d'Afrique australe. Le nombre de blessés dénombrés a également bondi à près de 900 après le passage du cyclone qui a frappé le continent le 15 décembre, un jour après avoir dévasté le petit archipel français de Mayotte. La situation au Soudan du Sud, à la frontière où affluent les réfugiés soudanais, est totalement accablante, avec des milliers de personnes fuyant les combats, a alerté lundi Médecins sans frontières. Les détails avec Nani Talani.
En décembre, chaque jour, plus de 5000 personnes ont traversé la frontière vers le Soudan du Sud, en proie à des violences diverses et régulières, en plus des calamités climatiques, indique l'ONG. La situation est totalement accablante et insuffisante, déplore Emmanuelo Montebio, coordinateur des urgences de MSF à Rink. Plus de 100 blessés, dont beaucoup souffrent de blessures graves, y attendent toujours d'être opérés. Les deux centres de transit de Rink, conçus pour accueillir un maximum de 8000 personnes, en abritent désormais plus de 17 000, selon MSF. Des milliers de personnes ayant traversé la frontière sont confrontées à des pénuries critiques de nourriture, d'eau potable, d'abris et de soins de santé, d'après Roselyne Morales, coordinatrice médicale adjointe de MSF à Djouba. En dehors des centres de transit de Rink et dans des campements informels, des milliers de personnes sont obligées de vivre sous des arbres ou dans des abris de fortune. Elles ont un accès limité à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et à tout autre service de base, déplore l'organisation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Interpellé par des organisations de défense des droits humains, le président américain Joe Biden a commué ce lundi la peine de 37 condamnés à mort, moins d'un mois avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Jacques Aristide.
Dans un communiqué, Joe Biden indique avoir commué les peines de 37 des 40 individus présents dans le couloir de la mort de la justice fédérale à des peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le président démocrate ajoute que les commutations prononcées sont cohérentes avec le moratoire que son gouvernement impose aux exécutions fédérales dans les affaires autres que le terrorisme et les meurtres de masse motivés par la haine. 9 des individus échappant à la peine capitale, grâce à la mesure du président Biden, ont été condamnés pour avoir tué d'autres prisonniers. 4 autres ont commis des meurtres lors de braquages de banques et un autre a tué un surveillant pénitentiaire. Ne vous trompez pas, je condamne ces meurtriers, je pleure les victimes de leurs actes ignobles. Et j'ai de la douleur pour toutes les familles qui souffrent d'inimaginables et irréparables pertes, dit-il. Mais guidé par ma conscience et mon expérience, je suis plus convaincu que jamais que nous devons cesser de recourir à la peine de mort au niveau fédéral, conclut Joe Biden. Plus de 130 organisations de défense des droits humains ont dit craindre une vague d'exécutions après la prise de fonction du républicain Donald Trump, qui va entamer son second mandat présidentiel le 20 janvier prochain.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué lundi des avancées pour un accord sur les otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas palestinien en octobre 2023 et d'y avoir demandé à l'armée de détruire les infrastructures des rebelles houthis du Yémen. Monsieur Netanyahou a également affirmé vouloir signer de nouveaux accords de paix avec les pays arabes, comme ceux négociés en 2020 par les États-Unis, qui ont vu Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan établir des liens formels avec Israël. Plus de 1100 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés depuis qu'ils combattent contre l'Ukraine aux côtés de la Russie et leur armée prépare un nouveau déploiement de troupes ainsi que des livraisons d'armes, a affirmé lundi l'état-major sud-coréen. Le premier ministre libanais a appelé lundi Paris et Washington à faire pression sur Israël pour accélérer le retrait de son armée du sud du Liban, près d'un mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa.
La crise politique au Mozambique, consécutive aux élections présidentielles et législatives du 9 octobre, et le passage du cyclone Chido qui a frappé le pays le 15 décembre, perturbe les exportations en Afrique australe. L'Afrique du Sud voisine exporte son chrome par le poste frontière de Lebombo, qui est régulièrement fermé aux fret. L'Iswatini, dépourvu d'accès à la mer, utilise le port de Maputo pour exporter son sucre. Or, les activités de ce port sont perturbées. Le FMI a annoncé jeudi un nouvel appui budgétaire de 808,5 millions de dollars à la Côte d'Ivoire, une décision prise au terme d'une mission d'évaluation des programmes économiques et financiers conclue avec le pays sur la période 2023-2026. Ces programmes visent à renforcer la stabilité macroéconomique et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et permettre à la Côte d'Ivoire de relever les défis liés au changement climatique.
Place maintenant pour avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
En Espagne, Valence limoge son entraîneur.
La dynamique des résultats a nécessité une décision qui a été très difficile à prendre mais qui vise à inverser la situation, a déclaré le Valence FC avant-dernier de Liga en annonçant ce lundi le limogeage de son entraîneur Ruben Barahá, ancien joueur emblématique du club après le match nul de but partout concédé face à Alavés dimanche. Actuel 19e de Liga, Valence est resté sur 5 matchs sans victoire en championnat où il n'a plus gagné depuis le 23 novembre face au Betis Séville en perdant par 4-2. L'ancien milieu défensif, deux fois champion d'Espagne avec le club valencien, était arrivé à la tête de l'équipe en février 2023 pour éviter la relégation. Valence disputera son prochain match le 3 janvier face au Real Madrid, une rencontre de la 12e journée de Liga.
En Angleterre, Liverpool surclasse Tottenham et conforte sa première place.
Meilleur que jamais, Liverpool s'est offert un festin à Tottenham avec une large victoire 6-3 lors de la 17e journée du championnat avec un doublé et deux passes décisives de Mohamed Salah. Liverpool a contrôlé les Spurs jusque dans le scénario et le tempo du match, donnant souvent l'impression de laisser volontairement l'adversaire reprendre pied, quitte à encaisser 3 presque anecdotiques. Les Reds profitent du match nul inattendu de Chelsea à Everton 0-0 pour consolider leur première place avec 4 points d'avance et un match de plus à jouer. Mohamed Salah est désormais seul en tête du classement des buteurs avec 15 devant Erling Haaland de Manchester City qui a 13.
Arsenal privé de Saka et Sterling pour de nombreuses semaines.
Troisième de Premier League, Arsenal va devoir se passer des services de ses attaquants internationaux Bukayo Saka et Raheem Sterling, tous deux blessés, a annoncé ce lundi le manager des Gunners, Mikel Arteta. L'ailier souffre des ischio-jambiers et son absence s'annonce particulièrement longue. Sterling, prêté cette saison par Chelsea, n'a pas réussi à s'imposer jusque-là à Arsenal. Les Gunners, qui comptent 6 de retard sur le leader Liverpool avec un match en plus, reçoivent vendredi l'avant-dernier Ipswich.
Et enfin NBA, Jokic et les Nuggets arrachent la victoire au Pélican.
Denver a dû attendre la prolongation pour arracher la victoire sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, 132-129. Dimanche en NBA, profitant d'un triple-double de sa star serbe, Nikola Jokic. Triple MVP en 4 Jokic a mis du temps à entrer dans le match. Il n'a inscrit que 6 avant la mi-temps et les Nuggets ont compté jusqu'à 17 de retard dans le 3e quart-temps. Toujours en NBA, les Indiana Pacers, amenés par Pascal Siakam, 19 points et 10 rebonds, ont enchaîné une 4e victoire de suite en dominant facilement. Après la mi-temps, les Sacramento Kings, 122-95 en Californie. Après avoir encaissé 70 points durant la seule seconde période, les Kings se sont inclinés pour la 4e fois consécutive et ont été hués par leurs fans.
Merci Eric.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le village de Dendro, les agriculteurs louent la présence des soldats de la MONUSCO qui les protègent pendant les travaux champêtres, même si cette force onusienne avait fait l'objet de vives critiques dans ce coin du territoire de Djougou. Les agriculteurs semblent ne plus pouvoir vivre sans désormais leur ange gardien, alors que le Conseil de sécurité a renouvelé la semaine dernière le mandat de la MONUSCO pour un an. Le point avec Lionel Nounaniagaïma.
Sous le soleil brûlant, dans l'est de la RDC, Charles, déplacé et résident de Dendro, s'occupe de son champ sous la protection des soldats de la paix des Nations Unies. La MONUSCO nous aide beaucoup avec cette sécurité pour notre survie. Les agriculteurs, dont beaucoup ont été chassés de chez eux par le conflit, s'abritent dans les camps situés à proximité de bases des Nations Unies. Lokana Héritier, 23 ans, a quitté son village pour vivre plus près des casques bleus.
Je suis venu ici parce qu'il y a la présence des MONUSCO. C'est à cause de cela que je pars maintenant au Tchad.
Parce que tu as perdu quoi?
J'ai perdu des assaillants de Codeco là.
La Codeco, coopérative pour le développement du Congo, est une milice affirmant défendre les intérêts de la tribu l'hindoue face à une tribu rivale, les Hema. Détenant Djaba Germain, leader de la société civile de Dendro.
Et même au cas où il y a des menaces de la part de nos frères l'hindou, donc les éléments de la Codeco, ils sont aussi proches, ils ne sont pas loin, ils sont proches. Donc nous faisons signe, nous faisons l'alerte précoce et la MONUSCO Bangladesh, en tout cas, elle nous intervient vraiment.
L'opération visant à protéger les agriculteurs est connue sous le nom de Secure Harvest. Elle leur permet de travailler librement pendant la saison des récoltes et les protège des milices qui volent leurs produits et souvent les tuent. Brigadier général Monzourul Alam, commandant du secteur nord de la MONUSCO.
L'objectif principal est de sécuriser les agriculteurs sur leurs terres lorsqu'ils travaillent. Et nous pensons que cela est directement lié à la protection des civils pour laquelle la MONUSCO est mandatée.
La MONUSCO est déployée en RDC depuis 2010 pour sécuriser la région troublée de l'Est. L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait approuvé la fin de la mission à la demande du président Félix Tshisekedi. Mais le gouvernement a demandé à la mission de rester dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour le départ de la force. Le Conseil de sécurité a prolongé le 20 décembre d'un an le mandat de la MONUSCO.
En 2024, les électeurs se sont mobilisés dans le monde et plus d'une douzaine de pays d'Afrique ont organisé des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Alors que certains partis dominants de longue date ont conservé le pouvoir dans certaines parties de l'Afrique, d'autres ont subi des échecs, des défaites cuisantes. Mariama Diallo, chef du bureau de VOA Nairobi, examine comment la démocratie s'est comportée cette année sur le continent. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Certains résultats des élections cette année en Afrique étaient attendus, d'autres ont été surprenants. Au Sénégal, par exemple, l'incertitude des élections s'est transformée en un accomplissement historique, puisque l'opposant Bassirou Diomaye Faye a été élu et à 44 ans, devenant le plus jeune président d'Afrique. Sa victoire est intervenue après l'échec d'une tentative du président sortant Macky Sall de reporter le processus électoral, créant ainsi une brève crise politique dans le pays. L'analyste Teddy Kaberuka estime que des leçons peuvent être tirées pour le cas du Sénégal.
C'est un scénario très intéressant, très instructif pour ceux qui apprennent ce qu'est la démocratie.
Au Ghana, après avoir effectué un seul mandat, John Mahama a fait un retour fracassant en 2024 et a battu le vice-président et candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia. Pour Kwame Asante, de nombreux Ghanéens avaient à l'esprit l'économie et à la situation financière de leur famille, au moment de voter.
Parce que c'est une question de pain de beurre. Nous avons vu à maintes reprises que chaque fois que l'économie est très difficile, la campagne devient difficile pour le gouvernement en place.
Mahama promet d'améliorer une économie qui se remet lentement d'un défaut de paiement de 30 milliards de dollars en 2022. Le Botswana est entré dans une nouvelle ère en élisant un dirigeant issu de l'opposition pour la première fois en près de 60 ans, après des décennies de règne d'un seul parti. Contrairement au Botswana, le parti Frelimo du Mozambique a remporté une nouvelle victoire après près de 50 ans au pouvoir. Les résultats ont été immédiatement rejetés par le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position, ce qui a déclenché de violentes manifestations dans ce pays d'Afrique australe. Kwaku Nuama de l'American University espère que Daniel Chapo du Frelimo pourra éviter un conflit prolongé au Mexique.
Lorsque vous gagnez, vous avez la responsabilité d'unir le pays. J'espère qu'il sera capable de le faire. Nous n'avons pas besoin d'un autre pays africain qui s'enflamme.
De même, le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, a conservé le pouvoir après plusieurs décennies de gouvernance, mais est entré dans l'histoire en élisant sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Son principal adversaire a qualifié les élections de profondément erronées après que de nombreux exemples de difficultés techniques et de pénurie de bulletins ont été signalés le jour de l'élection. Au Rwanda, le dirigeant de longue date, Paul Kagame, a obtenu près de 100% des voix, une victoire écrasante.
Si 98% de la population vote pour un candidat, c'est un signal d'alarme.
Si les détracteurs de Kagame affirment qu'il est resté trop longtemps au pouvoir, d'autres disent qu'il a beaucoup fait pour le pays.
Les résultats sont tangibles, on peut les voir.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir depuis 30 ans n'a pas réussi à remporter les législatives avec une majorité absolue, ce qui l'a contraint pour la première fois de son histoire à former un gouvernement de coalition.
Le président américain Joe Biden a commué la peine de 37 condamnés à mort. Moins d'un mois avant son départ de la Maison-Blanche, les personnes concernées avaient été toutes condamnées par la justice fédérale américaine, distincte de la justice propre aux États. Début décembre, plus de 130 organisations avaient rappelé à Joe Biden son engagement de campagne de 2020 contre la peine de mort et salué le moratoire sur les exécutions au niveau de la justice fédérale décrété en mai 2021 par son gouvernement. Quelle est la portée symbolique de cette décision de Joe Biden? Explication de Mohamed Bodge, professeur d'histoire à Manhattan College à New York, joint par Alexandrine Holognon.
Le symbolisme est très fort parce que les États-Unis sont l'un des rares pays à avoir conservé et continue à exécuter la peine capitale comparée donc à leur, surtout à leur, ce qu'on peut appeler les équivalents, que sont les pays européens d'une manière générale. Donc là, c'est un coup effectivement médiatique assez important.
Justement, on se demande, pour un pays qui défend les droits des hommes, comment expliquer que des États américains continuent d'appliquer la peine de mort alors que d'autres l'ont abolie?
Ça tient de deux choses. D'une part, ce qu'on peut appeler l'esprit pionnier. Avec l'esprit pionnier, donc, au départ, tout est question de vie ou de mort. S'il y a une mauvaise récolte, les gens meurent. Donc, en réaction à cette sorte de pauvreté générale et de difficulté de survivre, beaucoup de crimes sont devenus des crimes de sang aux États-Unis. Donc, et ça, c'est plutôt l'esprit pionnier. De l'autre côté maintenant, il y a l'influence de la Bible, en particulier l'Ancien Testament, donc la loi du talion plus ou moins, et qui font que c'est un pays qui est fortement influencé donc par le christianisme fondamental et qui s'appuie souvent, lorsqu'il s'agit de crimes, sur ce que l'Ancien Testament dit. Et troisièmement, maintenant, il y a ce côté assez américain que la peine de mort est devenue un droit des États, donc, et puisque les États cherchent à se particulariser les uns par rapport aux autres, et en particulier, il y a des États où, effectivement, l'électorat est plus conservateur que dans un autre, donc la peine de mort devient une sorte de, à la limite même, de badge d'honneur pour certains États de le garder, de la garder plutôt sur leur tablette, simplement pour dire que nous ne sommes pas aussi libéraux que d'autres États. Donc c'est une sorte de preuve de l'indépendance de ces États par rapport à d'autres États, même si effectivement il y a dans l'opinion publique américaine, d'une manière générale, une disposition très favorable à l'abolition de la peine de mort.
Pour revenir à la décision de Joe Biden, selon vous, quel impact cette mesure pourrait-elle avoir sur le système judiciaire fédéral et surtout sur les États où la peine de mort est encore appliquée?
Ça va réouvrir le débat. Je crois que malgré le débat qui va s'ouvrir, je ne pense pas que ça puisse faire bouger beaucoup donc ce débat sur la peine de mort. Si l'exécution, les gens qui tuent les enfants dans les écoles ne cessent pas d'ailleurs, cette actualité va donner des munitions. Je crains même que le débat ne ravive une sorte d'appétit pour la peine de mort pour ce genre de crime.
Mohamed Bodj, professeur d'histoire au Collège Manhattan à New York. En Côte d'Ivoire, la chef Zeynab Bonsé a battu le record du monde du plus long marathon culinaire individuel. Elle a complété ce lundi matin 131 heures et 30 minutes de cuisine en continu, une épreuve qu'elle a entamée le mardi 17 décembre 2024. Il revient maintenant au livre Guinness des records de confirmer cette prouesse. L'ambiance de la journée d'hier à Abidjan avec Jacques Aristide.
Des milliers d'Ivoiriens agglutinés contre des barrières se sont succédés jour et nuit depuis mardi de la semaine dernière à l'Agora de Koumassi, quartier de la capitale économique. Ici et sur les réseaux sociaux, l'engouement pour soutenir Zeynab Bansé est énorme. Dans la foule qui criait victoire, victoire, se trouvait Fatim Kamagaté, 25 ans.
C'est ma première fois de venir ici. J'aimerais goûter. Même si je n'ai pas goûté, mais pour le soutenir, c'est le mieux à faire.
Derrière la vitre de sa cuisine éphémère, un espace fermé au public, Zeynab Bansé s'active debout derrière des plats qui mijotent. Objectif, cuisiner pendant près d'une semaine avec 5 minutes de pause par heure travaillée et 2 heures de sommeil par nuit pour arracher le record du monde à l'Irlandais Alan Fish, remporté en fin d'année dernière avec 119 heures et 57 minutes sans interruption.
C'est société où c'est un peu compliqué pour la femme d'avoir une place, vraiment compliqué. Et notre métier n'est pas facile. Et le métier de chef, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se posent dans ce métier, c'est plus d'hommes. Donc je voulais d'abord être reconnue pour ce que j'aime ça, pour ma passion de la cuisine et en grande quantité. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ces défis, donc je me sens très bien.
Yves Aristide Kouassi, 25 ans, était là également pour soutenir la chef ivoirienne.
Souvent, elle se sent un peu fatiguée, mais quand elle commence à danser le coup du marteau, elle remonte d'énergie, elle commence à danser et puis elle est là. Elle cuisine, elle mange, elle envoie l'eau, on boit, nous on a la force, elle est là. Tant que c'est là, la force aussi pour cuisiner pour nous. Et nous reste maintenant 7 heures pour terminer le challenge. Quand elle sait que bientôt tout sera terminé.
Zeynab Bansé a été suivie régulièrement par un médecin durant ce marathon culinaire. La chef du restaurant L'Autre Rive à Abidjan avait prévu de préparer près de 300 recettes, toutes ivoiriennes, kedjenou, sauce graine, sauce arachide et autres plats typiques. Les mets dont les ingrédients ont été achetés ou offerts par des commerces locaux sont allés dans les orphelinats, dans les hôpitaux et le reste partagé sur place. Des plats ont aussi été distribués à des personnes délogées et dont les habitations ont été détruites lors d'opérations de démolition dans plusieurs quartiers d'Abidjan.
Même s'il n'y a pas, ils déduisent des points, parce qu'ils ça arrive souvent qu'ils arrêtent de points. J'aurais quand même reçu quelque chose, parce que le monsieur a rassemblé toute une compilation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Là, on va au-delà du défi.
Chaque jour, des personnalités publiques sont venues la soutenir, de politiciens aux artistes tels que Magic System, en passant par Emer Safaé, entraîneur de l'équipe nationale de football, les éléphants vainqueurs de la dernière CAN, Coupe d'Afrique des Nations, événement, lui aussi fédérateur.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à la rédaction et à la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Lionel Unamila Gaïma. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.